debout. Le fond, nous femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout.
Bonjour et bienvenue pour cette 4e émission du collectif féministe Debout. Je suis Sarah.
Et moi Maya.
Et moi Michel.
Voilà, donc bonne année 2014. Et donc pour cette nouvelle année, nous avons décidé de faire une émission consacrée exclusivement au féminisme. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Qu'est-ce qu'elles font les féministes? Toutes ces questions. Et puis on voulait aussi vous donner nos bonnes résolutions féministes pour 2014. Alors la première question quand on rencontre des féministes, c'est quoi le féminisme? Alors je sais pas par quoi on peut commencer, peut-être dire ce que c'est pas le féminisme parce qu'il y a plein d'idées préconçues qui se baladent.
Alors je crois que une des mauvaises idées qu'on peut voir du féminisme, c'est que ce serait du machisme inversé. Alors, le machisme, donc, c'est considérer que les hommes sont supérieurs aux femmes et doivent dominer les femmes. Et donc, le féminisme n'est pas l'inverse. Le féminisme, c'est une idée d'égalité, donc que les hommes et les femmes sont égaux. Donc, s'il s'agit de considérer les femmes supérieures aux hommes, dans ce cas-là, c'est plutôt ce qu'on appelle le matriarcat. Et ce n'est pas le féminisme. Le féminisme, c'est vraiment l'idée d'égalité.
Voilà. Et les féministes, ce ne sont pas des moches, des camionneurs, que des lesbiennes, des hystériques, des mal baisés, des anti-mecs, etc. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu encore pourquoi les féministes, ce n'est pas tout ça?
Souvent, on retrouve ce point commun. Je me souviens quand on avait été au camp des jeunes féministes d'Europe, justement, on avait échangé sur les idées préconçues qu'on nous envoyait quand on disait qu'on était féministe. Et il y avait beaucoup de ça, donc moche, mal baisé. Mal baisé par qui, dirait Michel?
Absolument. Quand on réfléchit un petit peu aux expressions toutes faites, on découvre que derrière tout ça, il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'idées reçues et des idées, on va le dire, imbéciles.
Et donc, qui sont communément admises. Le féminisme, c'est des femmes, des hommes comme les autres. Alors, il y en a des moches, il y en a des beaux. C'est pas ça qui va définir le féminisme.
Et le féminisme, on entend aussi souvent, c'est des extrémistes, les féministes, quoi.
Alors, certainement pas. Moi, je trouve que nous sommes extrêmement posés, réfléchis, lucides. Nous ne sommes pas du tout contre les hommes, pas du tout. Dans le collectif, on a quelques hommes intelligents, on va dire, qui ont envie vraiment de vivre autrement et des choses très différentes. Donc, on n'est pas du tout dans une attitude contre les hommes. On a envie d'être avec eux pour lutter pour notre égalité et notre liberté.
Ouais. Et voilà, anti-homme, non. On est contre donc le machisme, contre la domination masculine. Mais souvent, on peut faire le parallèle. Quand on parle de féminisme, on peut le penser comme le racisme. Donc le racisme, c'est être contre l'oppression des blancs sur les non-blancs. Donc ça ne veut pas dire qu'on est contre les blancs. Ça veut dire qu'on est contre l'oppression. Donc le féminisme, de la même manière, c'est pas être contre les hommes, c'est être contre la domination masculine. C'est pas pareil.
Carrément. Et ce qu'on entend aussi beaucoup, alors moi je sais que je suis née dans les années 80 et on avait l'impression que les luttes féministes c'était les années 70 et voilà, la femme est libre, c'est bon, tout va bien, l'égalité est établie, il y avait même une chanson, c'est une femme libérée, bla bla bla. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Hop, le féminisme c'est dépassé, c'est fini, c'était avant quoi.
Eh bien, hélas, non, c'est pas du tout dépassé, c'est même en recrudescence, j'ai envie de dire. Les droits acquis sont à nouveau remis en question, ne serait-ce qu'en Espagne avec la proposition de loi sur l'IVG qui restreint énormément la possibilité pour les femmes de choisir ou non leur maternité. Et ça, c'est vraiment scandaleux, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Et puis tous les jours, on voit bien que il y a encore beaucoup de chemin à faire et on va le faire.
Ok. Donc, le féminisme, c'est pas dépassé, c'est toujours actuel. C'est un des messages qu'on veut vous donner aussi aujourd'hui en vous expliquant ce qu'on appelle, nous, le féminisme. Et puis aussi qu'il n'y a pas qu'un féministe, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut peut-être partir un petit peu là-dessus? Est-ce que vous avez des exemples, Michel, Maya, des féminismes?
Bon, déjà, on a beaucoup de choses en commun, effectivement. Il y a, moi, une définition que j'aime bien, c'est le féminisme, c'est cette idée radicale que les femmes sont des êtres humains. Et pour moi, vraiment, c'est ça. Le féminisme est un humanisme.
Voilà. Donc, sur le féminisme, on peut aussi aller un petit peu plus loin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent bah, le féminisme, c'est la même chose que l'antisexisme. Pourquoi vous appelez ça féminisme? Enfin, en fait, c'est juste lutter contre le sexisme. Donc, je pense que c'est important d'aller plus loin dans notre définition du féminisme, sur le fait que le féminisme, c'est d'accord dénoncer les inégalités, et puis, analyser ce qui se passe, on parle de système patriarcal, et puis aussi proposer un petit peu un nouveau projet de société, quoi.
Alors, effectivement, il y a l'antisexisme fait partie du féminisme. Il s'agit de lutter contre les stéréotypes de sexe et contre les catégories qu'on peut faire. De là, enfin, ce n'est pas non plus à égalité, puisque que ce soit au niveau des droits, au niveau de la vie, au niveau des possibilités, on a une catégorie de personnes qui est dominée. Donc, ce n'est pas non plus mettre à égalité actuellement, en fait, les hommes et les femmes ne sont pas à égalité. Donc, dénoncer ça, dénoncer les stéréotypes qui sont faits, les rôles dans lesquels on veut enfermer les gens et dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Mais plus que ça, plus que dénoncer des inégalités, c'est aussi porter un projet de société, un véritable changement pour une société égalitaire, encore une fois, où chaque être humain aurait sa place. C'est aussi réfléchir aux autres inégalités. Donc en termes de classe aussi, par exemple, en termes de couleur, en termes, etc.
Moi, je rejoins absolument Maya quand elle dit que le féminisme est un humanisme. Et je crois que ça, c'est une notion fondamentale. Cette égalité, cette liberté doit être accordée et mise en pratique pour tous les êtres humains. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a trop d'oppression, de domination, d'inégalité. Et c'est vrai que les femmes sont parmi les opprimées, une des catégories les plus importantes. Parce que la société étant bâtie telle qu'elle est, il faut absolument changer ces concepts-là et rétablir un équilibre qui, pour l'instant, n'existe pas.
Oui, c'est ça. Si on veut revenir à un équilibre, ça veut dire donner plus de place aux femmes. Et c'est pour ça que c'est important de garder ce mot féminisme pour bien signifier qu'il s'agit de redonner une place aux femmes dans la société. Et c'est aussi tenir compte de l'histoire du féminisme et de toutes ces femmes qui se sont battues pour qu'actuellement en France on ait le droit de vote, qu'on ait le droit d'interrompre une grossesse non désirée. Et oublier ce mot, c'est aussi oublier toute cette histoire qui fait que aujourd'hui on a pu avancer. Donc ce serait vraiment dommage, et d'autant plus que ce n'est pas fini. Il y a aucun pays dans le monde où il y aurait vraiment une égalité entre tous les êtres humains, encore moins entre les hommes et les femmes. Donc la lutte continue, et oui, encore féministe en 2014, et tant qu'il le faudra.
Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. C'est une citation de Rebecca West. Et maintenant, une pause musicale. Juste une femme, d'Anne Sylvestre.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi. Il n'est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, même baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite. Qu'est-ce qu'elle a, c'est hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermer les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus, il recommence. Inconvenance. Quoi si on peut plus plaisanter? On n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il n'est pas un monstre. Et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame, juste des femmes.
Solidarité avec les femmes du monde entier, c'était le slogan donc, de la Marche mondiale des femmes à laquelle on a pu participer en 2010. Alors on reproche souvent aux mouvements féministes leur penchant pour la victimisation. Alors si c'est un moyen de les faire taire, ça ne va pas marcher. Et Michel, oui, tu voulais...
Oui, moi ce que je voudrais dire par rapport à la victimisation, c'est que d'abord dans un premier temps, les femmes ont le droit de se sentir victimes parce qu'elles le sont. Elles sont victimes dans la mesure où elles n'ont pas possibilité de réagir à des rapports de domination et de violence. Alors effectivement, il faut accepter ce mot de victime. Pour l'instant, on n'en a pas d'autre de mieux. Donc les femmes sont victimes d'une oppression et d'une domination masculine, dans beaucoup de cas, bien sûr, il y a aussi des hommes que j'appelle moi nouveaux, et ceux-là, je les aime beaucoup. Mais bon, cette victimisation, effectivement, elle doit être dépassée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enquister dans ce rôle de passivité, de dire « bon, je suis une pauvre victime », de se plaindre et de geindre comme ça pendant 107 ans. Donc, une fois qu'on a bien été reconnu victime, on passe au stade suivant, c'est-à-dire la lutte, la bagarre, on ne va pas se laisser faire. On a été victime, mais maintenant, on reprend les choses en main et on va vous montrer ce qu'on va vous montrer.
Là-dessus, je veux peut-être apporter quelques chiffres hein, sur, on dit, les femmes sont victimes. On est dans une société où elles sont le groupe dominé. Donc, 73% des personnes les plus pauvres dans le monde sont des femmes. 99% des propriétaires dans le monde sont des hommes. Hein, c'est un bon exemple, il me semble. Hein. On en a plein d'autres, hein, comme ça.
Alors que la majorité des personnes qui travaillent la terre sont des femmes.
Voilà. Donc, c'est des petits exemples. Hein. Je ne sais pas, le travail domestique en France, les femmes y passent deux fois plus de temps. En tout cas, oui, alors sur l'éducation des enfants, elles passent deux fois plus de temps. Il y a un truc avec le linge aussi. Elles passent 10 fois plus de temps que les hommes à s'occuper du linge. On ne sait pas pourquoi. Il y a ce que disait Michel tout à l'heure, hein, le droit à l'avortement, il est en danger. Alors, pas qu'en Espagne, en Suisse aussi, aux États-Unis, il y a plein d'États qui font machine arrière par rapport à l'accès à l'avortement. Par rapport à ce qui se passe dans le monde, il y a des bébés filles qui sont éliminés soit pendant la grossesse, soit à la naissance. Hein, on comptait en 2005 qu'il manquait 163 millions de femmes en Asie à cause de ça. Hein, c'est encore des exemples. Sur la pauvreté, on voit que en France, après 75 ans, il y a deux fois plus de femmes qui sont pauvres que d'hommes, etc. etc. Donc voilà, on part d'un constat et après, comme le disait Michel, on lutte. Donc on lutte parce qu'on est un groupe social qu'on peut appeler le groupe social des femmes, qu'on a une communauté d'intérêt. Mais après, on voulait aussi, ce que je disais tout à l'heure, vous parler du fait qu'on n'a pas toujours une même communauté d'intérêt parce qu'on est des femmes, mais on n'est pas que des femmes. On peut être des femmes riches, des femmes pauvres, des femmes blanches, des femmes noires, des femmes du Nord, des femmes du Sud, des femmes lesbiennes, des femmes hétéros, des femmes bi, etc. etc. Donc c'est intéressant de revenir sur... les différents mouvements qu'on retrouve dans le féminisme.
Oui, alors il y a deux grands courants, on va dire. Il y a le courant essentialiste et le courant universaliste. Alors, essentialiste, ça veut dire que les femmes sont des êtres à part, avec des qualités féminines à part. Et donc, l'idée, ce serait de vouloir féminiser le monde avec ses qualités intrinsèquement féminines. Nous, au collectif Debout, on ne partage pas cette vision-là, où pour nous, donc on est plutôt universaliste, donc que les femmes sont des êtres humains comme les autres, qu'il y a des qualités dites féminines, dites masculines ou non dites parmi les hommes, parmi les femmes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de cette universalité du féminisme. Aussi, on ne se limite pas au combat féministe, puisque pour nous, il concerne aussi d'autres domaines. On s'intéresse aussi à ce qui est du pouvoir économique et du système économique qui engendre des inégalités ou qui accentue des inégalités hein, dans le cadre du machisme. Et donc, on est aussi dans une critique du capitalisme, nous, au collectif Debout, qui n'est pas, idée critique qui n'est pas partagée par toutes les féministes.
Oui, et j'ajouterais que le combat de l'ancienne ou de la future présidente du MEDEF ne peut pas être le même combat que les femmes pauvres de Centrafrique. C'est évident que là, le féminisme a plusieurs teintes et des déclinaisons infinies et énormes. Donc, c'est vrai qu'il y a des féminismes et que l'essentiel, c'est quand même bien l'égalité. L'égalité de toutes avec tous, c'est-à-dire hommes et femmes. Et je reviens sur mon idée d'égalité dans la liberté, ce qui me paraît la notion assez fondamentale. Et puis, je voudrais dire aussi sur cette fameuse complémentarité supposer des hommes et des femmes, leur on dit oui, mais on se fait pas la guerre. Bon, si, la guerre, on se la fait actuellement parce qu'on est dans une ère complètement machiste et la guerre, elle a lieu. Mais nous, on espère qu'il y aura ni gagnant ni perdant et que cette guerre va être dépassée et que nous serons dans un terrain vraiment d'égalité. Et cette fameuse complémentarité, moi, elle m'énerve suprêmement parce que il n'y a pas de complémentarité, comme disait Maya, c'est vraiment des êtres différents qui ont à voir les uns avec les autres, qui sont en résonance ou pas les uns avec les autres. Et quant à moi, je préfère être plémentaire et j'enlève le suffixe.
Et donc, on peut revenir peut-être sur cette histoire de complémentarité. Hein. C'est le truc, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Hein. Donc, nous, on n'adhère pas du tout. Et ça permet là d'approfondir éventuellement ce qu'on appelle la notion de genre. Après, vas-y.
Oui, alors je crois que c'est ça qui bloque vraiment l'égalité d'aboutir aujourd'hui, c'est que toujours on reste sur cette petite part de oui, mais il y a quand même un rôle pour les femmes, un rôle pour les hommes. Eh bien, tant qu'on restera là-dedans, on ne peut pas arriver à l'égalité. Il ne s'agit pas d'opposer quelques petits avantages des femmes aux acquis des hommes, il s'agit de tout foutre en l'air, comme dit Virginie Despentes. Donc cette complémentarité, elle est là surtout pour bloquer, pour rester toujours dans ces rôles de ce rôle économique de ce que doivent faire ce que doivent faire les femmes ou ce que doivent faire les hommes. Je me souviens au moment de définir une constitution pour la Tunisie, il y avait eu une polémique justement où on disait que la femme était complémentaire de l'homme. Et là, les féministes sont montées en créneau en disant non, surtout pas, on ne veut surtout pas ça dans une constitution. Et maintenant est inscrit la femme et les hommes, enfin les femmes et les hommes sont égaux. Et c'est vraiment très important. Si on passe pas ce stade-là, on ne peut pas arriver à une égalité en droit, à une liberté de s'autodéterminer. Et c'est ça aussi le féminisme. C'est, on ne naît pas femme, on le devient, comme disait Simone de Beauvoir. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on veut en faire, disposer librement de son corps, disposer librement de sa vie, de ses choix. C'est ça aussi, être féministe.
Oui, et j'ai envie vraiment d'ajouter là, parce que ça me tarabuste. Au niveau de la lutte féministe qui serait dépassée, eh bien non, malheureusement non. Le féminisme sera dépassé quand le machisme aura trépassé. Celle-là, je l'aime beaucoup, alors je vous la livre et je vous la donne.
Et sur la question de la guerre des sexes. Alors, on entend aussi que les féministes souhaitent semer la zizanie et créer la guerre des sexes. Hélas, la guerre des sexes, on y est. C'est la situation actuelle où une catégorie souhaite prendre le pouvoir sur l'autre avec des moyens violents aussi. Et on est actuellement donc, dans la guerre des sexes avec ses victimes, avec ses blessés, avec ses morts, avec ses viols. S'il n'y avait pas ça, on pourrait... C'est une manifestation en fait, du fait qu'on est en guerre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la paix, c'est revenir à une harmonie et considérer chaque personne comme une personne.
Oui, et les victimes de la guerre des sexes, je voulais donner 2-3 exemples. Hein. Soit 75 000 femmes sont victimes de viols chaque année en France, soit une toutes les 7 minutes. Quoi d'autre ? La principale cause de mortalité et d'invalidité des femmes dans le monde, je crois, donc des femmes de 16 à 44 ans, c'est les violences domestiques. Et en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Donc, quand on parle de guerre, c'est une réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix.
On veut sortir de cette guerre, oui.
L'harmonie universelle, soyons utopistes.
Et à propos de vœux, on a été interviewer quelques personnes, enfin des féministes qu'on connaît. On leur a demandé 2 choses. Pourquoi êtes-vous féministe et quels étaient leurs vœux féministes pour 2014, leurs vœux, leurs bonnes résolutions. Et donc, on va vous passer ça. Mais avant ça, il y aura d'abord la chanson de Carmen Maria Vega qui s'appelle « Non, non ».
Il était beau, il était fort, il était grand et il voulait me donner du bon temps. Il avait les yeux bleus comme l'océan. J'en dis non, non, intransigeant aussi, diplomatie, mais non. Être poli, non, non, doubler les gens
la poésie, mais non, c'est pour les cons, ça oui. Fallait bien que je me batte, j'aurais préféré être danseuse, et je me suis tordu la patte, et j'ai vomi. Et comme j'étais plate, j'en ai entendu des vicieuses, et j'en ai mis des coups de latte, et j'en ai voulu.
Quoi être féministe ? Parce que je suis née dans une famille patriarcale, avec un père et des frères à des places différentes de toutes les places qu'aurait pu prendre ma mère, mais ça... Bref, ça a commencé très tôt. Un grand élan de... Comment dire, des incompréhensions, de la colère, sentiment profond d'injustice et de me dire que non, c'est pas possible, quoi. Il doit bien y avoir d'autres modèles possibles.
Je savais pas moi-même que j'étais féministe. C'est-à-dire que je ne connaissant pas bien la définition du féminisme, je me suis rendu compte que je l'étais parce que en donnant certaines de mes opinions, on m'a dit bah clairement t'es féministe. Et pourquoi je le suis ? Parce que j'aimerais te dire que je pense que les hommes et les femmes à acquérir l'égalité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ont beaucoup à apprendre les uns des autres, et je pense surtout que les hommes ont beaucoup à gagner à sortir de leur statut de dominant et à gagner en humilité. Et parce que je pense que c'est important aussi de faire sortir dans nos sociétés, sortir la femme du statut de dominée, parce qu'elle a beaucoup à nous apporter. Et c'est une question compliquée quand même.
Alors je suis féministe parce qu'on vit dans une société où les hommes et les femmes ne sont malheureusement pas considérés vraiment comme égaux. On le voit tous les jours rien qu'au niveau du travail. C'est effectivement devant la loi avoir les mêmes droits, et pourtant les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans notre pays. Et ce n'est même pas représentatif de toutes les discriminations, toutes les souffrances que les femmes subissent depuis la nuit des temps. Et il y aura besoin de féminisme tant qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau-là.
Pourquoi je suis féministe ? Parce que je suis un homme ? Non. Pro-féministe, certains diront, peu importe le mot. Je pense que par rapport au fait qu'on vit dans une société profondément injuste, et que les personnes les plus ou particulièrement touchées sont les femmes. Je pense que les hommes ont leur mot à dire. Je pense que les hommes ont à porter, par exemple, la voix des femmes auprès d'autres hommes. Pour pour bouger un peu les consciences, pour sortir de tous ces réflexes, ces façons de parler, parfois de mépriser et dominer finalement les femmes. Donc voilà, en tant qu'homme, j'essaye de porter une voix d'homme parmi tant d'autres hein, qui ont aussi cette sensibilité-là.
La première fois où je me sentais vraiment révoltée par rapport les différences entre hommes-femmes, c'était quand j'étais adolescente. C'était par rapport du sport à l'école. En fait, je remarquais dans les sports en classe, surtout en basket et en handball, que les garçons, ils passaient moins volontairement les ballons aux filles. Et en fait, ça m'a beaucoup énervée parce que j'ai joué beaucoup mieux que la plupart des garçons en fait dans ma classe. Et du coup, je me suis souvent disputée avec des garçons et j'ai trouvé ça complètement injuste. Et injuste aussi parce que c'était pas justifiable par rapport au sexe biologique, mais à cause d'une discrimination parce que j'étais une fille. Et alors, du coup, là, c'était la première fois que j'ai vraiment remarqué consciemment qu'il y a des différences entre garçons et filles qui ne sont pas forcément liées à la force corporelle, qui sont vraiment liées culturellement et qui m'ont beaucoup révoltée.
Des vœux féministes pour 2014. Je sais pas, beaucoup de bienveillance, d'émerveillement et puis toujours plus de personnes se rendent compte dans leur vie de tous les jours comment est-ce qu'ils peuvent accéder à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Je suis récemment devenue maman et en fait j'aimerais bien avoir une éducation pour mon enfant qui aborde aussi des compétences dites typiquement masculines ou féminines. Ça veut dire, bon, là, j'ai un petit garçon et j'aimerais bien aussi que lui, il fasse la cuisine avec son papa ou peut-être qu'il répare quelque chose avec sa maman pour qu'il y ait des petites différences comme ça qui se reproduisent pas forcément. Ça, c'est mon but de l'éducation de mon enfant.
Des vœux féministes pour 2014 liberté, égalité, sororité. Bon, fraternité aussi, tant qu'à faire, hein. Les deux ensemble.
Que notre gouvernement se décide à vraiment faire quelque chose pour le droit des femmes, parce que les choses évoluent vraiment très difficilement quand même. Hein. Donc ce serait bien qu'enfin les femmes soient reconnues de la même façon que les hommes, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche. Que ce soit pour avoir des postes plus élevés, la politique du plafond de verre qui fait que les femmes n'acceptent pas aux meilleures fonctions commence à être pénible. Et ce serait bien que de nos jours, on fasse en sorte, alors qu'on est quand même au 21e siècle, de faire que les femmes aient toutes le même salaire, les mêmes postes, les mêmes accès, même au patronat, etc.
Mais peu féministes, la révolution. Une vraie et belle révolution, un changement total de façon de penser, de façon de voir les choses, les rapports humains, penser l'égalité, vivre l'égalité, pratiquer l'égalité et chercher chaque jour cette égalité.
Voilà, on remercie donc ces personnes, ces féministes qui ont bien voulu répondre à nos deux petites questions. Et pour reprendre, on disait tout à l'heure, oui, le féminisme c'est actuel, il y a encore plein de raisons de lutter, c'est important, il faut qu'on avance. Mais en fait, le féminisme, ça date pas d'hier non plus.
Alors, moi, j'aimerais vous parler de Marie-Olympe de Gouges, donc, qui était une révolutionnaire de la Révolution française. Et elle a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est en 1791. Donc qui fait suite bien sûr à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et c'est vraiment la pionnière du féminisme en France. Je vais vous citer deux articles de sa déclaration. Article 1, la femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. L'article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Voilà, petit rappel, les citoyennes ont obtenu le droit de vote en 1944, plus de 150 ans plus tard. Et Marie-Olympe de Gouges nous invite à opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Voilà. Toujours d'actualité, donc.
Et oui, et Olympe de Gouges, qui a quand même fini guillotinée, en fait. Hein.
Oui, effectivement, pendant la Terreur, elle a critiqué les révolutionnaires de l'époque et donc elle a été décapitée. Mais bon, si une femme peut monter à la tribune, elle peut monter à l'échafaud. Ça fait aussi partie de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Oui, alors c'est vrai que sous la Révolution française, les femmes ont quand même pris part énormément à cette révolution. Elles ont marché sur Versailles. Elles étaient là quand elles ont ramené Louis XVI dans la capitale. Elles étaient là pour faire valoir leurs droits. Il y a beaucoup de noms qui sont restés ou qui ne sont pas restés. Il y a les célèbres tricoteuses, par exemple, qui siégeaient à l'Assemblée constituante. Il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de femmes. Et peut-être qu'on fera une émission sur l'histoire des femmes qui ont joué un grand rôle dans la lutte féministe. Parce que je crois qu'on doit leur rendre hommage. Et si aujourd'hui, il y a eu quelques avancées, on leur doit.
Donc, en effet.
Voilà.
Et par rapport à Olympe de Gouges, elle ne faisait pas que défendre une vision féministe, c'était aussi une pionnière donc, pour l'abolition de l'esclavage. Donc encore une fois, une humaniste. Et on peut voir que son combat a porté ses fruits aussi.
Moi, là-dessus, je voulais un petit peu rebondir. Hein. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on luttait contre les injustices de façon plus générale, hein, les discriminations de façon plus générale. Et on aurait commencé à parler des courants féministes. Et il y a un courant dont j'aimerais parler, que je ne connais pas encore bien, mais j'approfondis. C'est le courant post-colonial ou décolonial. Et en fait, c'est un courant qui est important parce que les femmes blanches occidentales ont peut-être, les féministes blanches occidentales, pour être précises, ont peut-être trop tendance à se dire c'est nous qui avons la raison, hein, une petite habitude un peu colonialiste. Donc on va aller dire aux femmes du Sud, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais parler de ce courant parce que c'est un courant où les femmes... déjà dans le féminisme de façon générale c'est les femmes qui s'émancipent mais c'est aussi de reconnaître que c'est pas aux femmes occidentales d'aller dire aux femmes du Sud comment elles doivent être féministes. Donc je voulais reprendre des petites citations, je vais vous dire les références après. Donc je vais citer, c'est « Le féminisme change-t-il nos vies ?» C'est un petit livre, je vous redonnerai le détail. « Peut-on sortir de l'enfermement de classe, de race et d'origine pour formuler ensemble féministes noires, blanches, de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud, d'origine immigrée ou de souche, allochtone ou autochtone. Donc, peut-on sortir de cet enfermement pour une critique de la société occidentale dans son assujettissement des autres cultures et aussi une critique en parallèle, donc forcément, du patriarcat. Un féminisme décolonial est-il possible ? Donc voilà, c'est ça le féminisme décolonial, c'est sortir de tout ça et que ce soit toutes ces femmes qui luttent ensemble. Et donc, une dernière, elle est courte celle-ci. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même forme d'oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Très jolie parenthèse, Sarah. Nous souscrivons entièrement à tout cela.
Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est un courant du féminisme. Donc il y a pas mal de courants actuels, dont des courants qui sont un peu médiatisés. On peut commencer un peu à parler de ces courants, de ce qu'ils proposent, ce qu'ils font.
Le plus médiatisé en ce moment, c'est les Femmes, peut-être.
Oui, alors ce sont des jeunes femmes russes qui ont fondé ce mouvement en 2008. Alors, il est internationalement connu, bien sûr, parce qu'elles ont organisé des actions seins nus. Alors, effectivement, ça choque beaucoup l'opinion. Mais c'était uniquement dans le but de défendre les droits des femmes. Alors, ça les conduit également, comme on disait aussi tout à l'heure, à s'impliquer sur plusieurs autres sujets, notamment pour la démocratie, contre la corruption, en faveur de la réflexion sur la prostitution, ou encore l'influence des religions dans la société. Donc on voit que ce mouvement féministe qui est né en Ukraine a vraiment beaucoup de choses à dire, et entend les dire de façon un petit peu radicale, mais l'essentiel, c'est que le discours passe.
Il n'y a pas que le discours qui passe. C'est vrai que moi, je trouve pas que ce soit la meilleure forme... la meilleure manière d'en parler. Après, on a chacune nos manières de présenter nos idées. Moi, je suis choquée que ce soit encore choquant actuellement de voir des seins.
En effet. Alors, c'est vrai qu'elles utilisent, des images très parlantes dans cette société sexiste. Moi, je suis d'accord sur le fait que montrer ses seins, c'est pas forcément un acte révolutionnaire, mais ça le mérite quand même d'être parlant.
En effet.
Non, Maya.
Je sais pas. Est-ce que c'est l'apparence qui passe avant ou est-ce que c'est le fond du message? Moi, je préférerais que ce soit le fond du message. Mais...
Oui, mais s'il n'y a pas d'autre canal que celui-là.
Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de manières de lutter. Et le mouvement féministe, c'est aussi un mouvement qui se renouvelle.
Oui, mais moi, je trouve quand même qu'elles ont inventé une nouvelle forme et qu'elles ont eu un sacré courage de s'exposer de cette manière.
Ouais, et à propos de nouvelles formes, donc comme dit Maya, il y a plein d'autres mouvements. Il y a un mouvement, par exemple, qui s'appelle La Barbe et qui dénonce les choses encore autrement, d'une autre façon.
Oui, La Barbe, donc groupe d'action féministe qui a été fondé en 2008 en France. Et donc, les militantes de La Barbe dénoncent l'absence ou la sous-représentation des femmes dans les instances de pouvoir. Pouvoir économique, politique, culturel, religieux, public, scientifique, sportif et médiatique. Et donc elles ont un mode d'action simple, efficace, qui est fondé sur le coup d'éclat et l'ironie. Elles vont dans des assemblées donc à majorité masculine. Elles mettent une barbe et elles font un happening pour dire « la barbe ». Cela n'a que trop duré, le sexisme est ringard, pour dénoncer l'entre-soi de ces comités masculins. Je peux vous donner un exemple. Donc, lors du Festival de Cannes en 2012, elle souhaitait faire une action. Dans le monde culturel, c'est pas forcément facile d'entrer dans la salle pour pouvoir mettre leur barbe et puis donner leur discours. Donc, comme elles n'ont pas pu passer par la porte, elles sont passées par la fenêtre. Elles ont publié un texte dans le quotidien Le Monde. Et je vais vous en lire un extrait pour vous montrer à quoi ça ressemble. Messieurs, le Festival de Cannes 2012 permet à Wes, Jacques, Léo, David, Lee, Andrew, Matteo, Michael, John, Ong, Im, Amas, Ken, Sergei, Christian, Yursi, Jeff, Alain, Carlos, Walter, Ulrich, Thomas, de montrer une fois de plus que les hommes aiment la profondeur chez les femmes, mais seulement dans leur décolleté. Cette sélection exemplaire est un signe fort envoyé à la profession et au public du monde entier. Car qui mieux que le plus prestigieux festival de cinéma au monde pour être le porte-voix de cet immuable message? Avec une grande lucidité sur son rôle primordial, vous avez su empêcher toute velléité féminine de briguer une quelconque place dans ce milieu si bien gardé. Surtout ne pas laisser penser aux jeunes filles qu'elles pourraient avoir un jour l'outrecuidance de réaliser des films et de gravir les marches du palais, autrement qu'au bras d'un prince charmant. Donc c'était pour dénoncer le fait que souvent les femmes du cinéma donc, sont là sur l'apparence, alors que les réalisateurs sont des hommes. Et en 2012, au Festival de Cannes, sur la sélection donc, de 22 films, il y avait 22 réalisateurs qui étaient des hommes. Et donc on peut dire que ça a porté ses fruits, que le message est passé, puisque pour cette année, en 2014, c'est une femme qui va présider le Festival de Cannes. Donc c'est la cinéaste Jane Campion, qui est la seule femme à avoir décroché la Palme d'Or. C'était en 1993. Une précision, le but ultime de la barbe n'est pas tant d'installer quelques femmes de plus dans les clubs d'hommes régis par des hommes, créés pour des hommes. Même si l'irruption des femmes dans ces lieux est légitime et nécessaire, la barbe entend dénoncer l'hégémonie et le monopole du pouvoir, du prestige, de l'argent, des privilèges par quelques milliers d'hommes blancs, en ringardisant leurs codes, leurs manières, leurs valeurs, leur esprit de corps. Le sexisme, c'est ringard.
Une petite citation de Florence de Monreno. Les féministes peuvent se disputer, ce sont des hommes comme les autres. Voilà, sur les différents courants féministes. Alors, une petite pause musicale avec une chanson de Leslie Gore, « You don't own me ».
You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display, 'cause you don't own me.
La traduction, je ne t'appartiens pas, je ne suis pas l'un de tes jouets, je ne t'appartiens pas, ne me dis pas que je ne peux pas sortir avec d'autres hommes, et ne me dis pas ce que je dois faire, et ne me dis pas ce que je dois dire, et s'il te plaît, lorsque je sors avec toi, ne m'expose pas comme un objet, car je ne t'appartiens pas, n'essaye en aucune manière de me changer, je ne t'appartiens pas, et ne me retiens pas, car je ne resterai pas. Je ne te dis pas quoi dire, je ne te dis pas quoi faire, alors laisse-moi simplement être moi-même, c'est tout ce que je te demande. Je suis jeune et j'aime être jeune, je suis libre et j'aime être libre de vivre ma vie comme je l'entends, de dire et faire ce que je souhaite. C'était Leslie Gore en 1964, elle avait 17 ans. Voilà, une bonne résolution pour 2014, je m'appartiens, je fais mes choix.
Merci. Du coup, c'est bien d'avoir la traduction hein, dans des chansons anglaises, comme ça on ne suit pas toujours tout. Alors on parlait des courants féministes et y a un courant qu'on peut raccrocher quand même au féminisme et qui commence à quand même être connu, mais finalement méconnu, on ne sait pas ce que c'est vraiment le contenu. C'est le mouvement queer. Alors ça s'écrit, j'ai un mauvais accent anglais, je vous dis l'orthographe, hein. Q-U-E-E-R. Donc Maya va nous expliquer un peu.
Queer, donc c'est un mot anglais qui signifie étrange, peu commun, et qui est souvent utilisé comme une insulte envers des individus qui sont gays, ou lesbiennes, transsexuels. Et par ironie, par provocation, il a été récupéré et revendiqué par des militants et des intellectuels qui ne se retrouvent pas dans toutes ces catégories, donc ni hommes, ni femme, transsexuel, bisexuel, gay, lesbien, transgenre, travesti, etc. Et donc c'est un point de ralliement pour tous ceux qui veulent sortir de ce qu'on appelle donc l'hétérosexisme, hétéro de hétérosexuel, où on dit aussi parfois hétéronormativité, donc c'est cette contrainte qu'il y a à une seule norme. Alors, il n'y aurait qu'un seul modèle de couple qui serait un homme et une femme. Et donc actuellement, on ne peut pas dire que l'hétérosexualité soit un choix, tellement il est contraint, tellement on ne propose que cette catégorie-là. Et donc c'est une manière pour le mouvement queer donc, de critiquer aussi cette appartenance à une norme hétérosexuelle. Et donc c'est pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas être définies ni par leur sexe, homme ou femme, ni par leur pratique sexuelle. C'est une réflexion autour du genre et des sexualités qui, on peut le dire, est issue du féminisme.
En effet. Alors, on parlait un peu de nos bons voeux féministes. On avait demandé à d'autres de répondre à la question. Je crois que Michel avait quelques voeux féministes pour 2014. Plutôt des bonnes résolutions, voeux, ça
oui,
fait un peu...
Oui, des bonnes résolutions. On en fait toujours en début d'année, mais l'essentiel, ce serait de pouvoir les tenir. Alors, la première résolution, je me la formule à moi-même. Je me dis... chaque fois que tu as des propos un peu particuliers, stéréotypés, pleins de clichés, interroge-toi sur ce que tu penses, est-ce ce que tu dis, est-ce que tu ressens par rapport à toute cette question du féminisme, dont personne n'est exempt, quoi. On est tous un petit peu malades de ces formules-là, et on a des éducations très pesantes. Donc la première des choses, ce serait se dire... Et moi, dans tout ça, comment je me positionne et qu'est-ce que j'en pense et surtout qu'est-ce que je fais. Ensuite, deuxième résolution, s'interroger sur son environnement, que me raconte l'entourage, qu'est-ce qui me restitue, qu'est-ce qui me reflète. Après tout, ne rien dire, c'est fuir le conflit, c'est se dire, bon, ben, c'est pas si grave. Eh ben, pas du tout, c'est grave. Chaque propos anti-féministe est grave. Donc, on ne doit rien laisser passer, on ne lâche rien. Et comme dit dans la chanson que Maya nous a passée en venant à la radio, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
Je voulais aussi vous proposer trois bonnes résolutions. La première, arrêter de complexer. Parce qu'on ne correspond pas à la femme parfaite qu'on voit sur toutes les affiches de publicitaires ou à l'homme parfait, viril, etc. On est comme on est et c'est très bien comme ça. Arrêtons de complexer, d'essayer de vouloir se conformer à un modèle qui ne correspond à personne et qui ne sert qu'aux publicitaires. Deuxième bonne résolution, s'occuper de son intérieur. Faire moins de tâches ménagères, un quart d'heure de tâches ménagères de moins par jour, un quart d'heure de plus pour faire de la musique, pour lire, pour aller boire un verre avec les copines, etc. Et une troisième bonne résolution, oser se dire féministe. Ce n'est pas une insulte, c'est une manière de décider de sa vie, de décider de ses choix et de lutter contre l'injustice qui nous touche ou qui touche nos proches. Donc, oser se dire féministe.
Et puis aussi, Maya, on peut aller boire des pots avec les copains. Il n'y a pas que les copines.
Bien sûr.
quand on a fait nos réunions de préparation pour cette émission, on avait eu aussi une camarade qui n'est pas là, qui a dit on peut élire 50% de maires, donc de mairesse, pour les élections qui auront lieu en 2014. Voilà, c'est un exemple aussi de bonne résolution. Moi, je voulais vous dire, venez aux réunions de debout hein, pour 2014. On a des réunions tous les premiers mercredis du mois à 19h30. Au CCAN, à 69 rue Mont-Désert, à Nancy. Donc la prochaine, c'est le 5 février, on vous attend. Mais on ne fait pas que ça, on ne fait pas que des réunions. On a des actions tous les mois, en général au CCAN. Donc la dernière, c'était un atelier d'autodéfense. Peut-être qu'on peut en parler rapidement parce qu'on va faire un stage sur l'autodéfense après.
Oui, alors le féminisme, c'est aussi ne pas compter sur le prince charmant et notamment pour se défendre. On a souvent des... on est souvent soumise à des injures, des insultes, des attaques, des agressions dans le cadre public, dans le cadre privé. Donc l'idée, c'est d'apprendre à se défendre moralement, intellectuellement, verbalement, physiquement aussi, et se rendre compte de la force qu'on a en nous et savoir l'utiliser, avoir des moyens pour se sortir de situations qui nous mettraient en danger, tout simplement.
Donc là, c'était un atelier. On organisera bientôt un stage. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur notre site internet www.collectif-debout.fr ou même nous contacter...
.org.
Ou nous contacter à contact@collectif-debout.org aussi. Voilà, notre prochaine action, 25 janvier, toujours au CCN, 69 Rumont-Désert à Nancy. On va faire une projection sur le mouvement de libération des femmes en France de 1970 à 2004. Bon, ça ne sera pas juste une projection, on va aussi discuter évidemment. Alors, ce documentaire, on retrouve un peu le fil historique et politique des mouvements féministes durant 34 ans, hein, 70-2004. Donc, c'est découpé en quatre grandes périodes et à chaque fois, il y a les événements, mais aussi les analyses des féministes, hein, des actrices, des théoriciennes. Donc, on vous invite à venir débattre, nous rencontrer, discuter, boire un verre. Hein, au CCN, il y a aussi un bar. Donc, en même temps que vous regardez le film, vous pouvez boire un verre. 25 janvier, 20h au CCN. Et j'avais aussi des conseils de lecture, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le livre dont je parlais tout à l'heure, « Le féminisme change-t-il nos vies ?» sous la direction de Delphine Gardet. Donc, il y a différents articles d'auteurs, de chercheuses féministes. C'est les éditions, c'est textuel, je crois. « Désobéir au sexisme par les désobéissants ». Donc là, c'est « Le passager clandestin », les éditions. Et « Le féminisme pour changer la société ». Coordonné par Christiane Marty, c'est édité par Attac et la Fondation Copernic. Est-ce que vous avez d'autres conseils, Michel, Maya ?
Moi, je voudrais dire que... Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu faible. Je suis obligée de me racler la gorge, désolée.
Un coup de citron.
Oui. J'ai bu du citron, mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais dire que pas de défaitisme en ce début d'année. Les féministes, hommes, femmes, la lutte continue. Debout tout le monde. Et les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain.
Wow.
Ah, moi, je veux bien reprendre un de nos slogans favoris au Collectif Debout. Pas de révolution sans lutte des femmes
et pas de lutte des femmes sans révolution. Ah, je voulais le dire aussi. Voilà, donc l'émission du Collectif Debout se termine. Vous nous retrouverez donc, comme d'habitude, le deuxième vendredi de chaque mois sur RCN 90.7 ou sur le site internet de RCN, donc à 15h, le deuxième vendredi de chaque mois. Vous nous retrouvez le 5 février au CCN à 19h30, le 25 janvier au CCN à 20h. Et il nous reste qu'à vous dire au revoir.
Au revoir.
Au revoir et au plaisir.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes découvrons.